XVIIIe siècle. Et pour faire la transition avec le XVIIe, nous allons parler quelque peu de Jean Marteig, qui est le seul galérien qui ait écrit ses mémoires. C'est un des derniers galériens. Il a été condamné en 1700, c'est-à-dire la dernière période, et il a intitulé ses mémoires qu'il a écrits après sa libération en 1753 à Rotterdam. Il a intitulé ses mémoires « Mémoires d'un galérien du roi Soleil ». C'était un homme qui était originaire de Bergerac et qui, à l'âge de 17 ans, avait envisagé de fuir pour des raisons religieuses, pour sa foi, comme tant d'autres d'ailleurs, ça. Et c'était l'époque où les apprentis, quand ils avaient terminé leur apprentissage, devaient faire ce qu'on appelait un tour de France. C'est-à-dire qu'ils devaient compléter leur apprentissage en se mettant au service, n'est-ce pas, de différents patrons de leur corporation, quelques mois dans un certain nombre de villes, et ça qui équivalait à un tour de France. Donc c'était un prétexte plausible, n'est-ce pas, que ce jeune originaire de Bergerac, qui s'est retrouvé à Paris, puis de là à Charleroi dans les Ardennes, sous prétexte de Tour de France, bien sûr, mais en réalité pour fuir le royaume. Il était accompagné d'un ami et il espérait ainsi gagner la Hollande. Il avait gagné depuis Paris donc Mézières et Charleroi, et puis alors, évidemment, quand est venu le moment de passer la frontière, eh bien, il s'est égaré dans la forêt des Ardennes. C'est pas le premier qui s'est fait prendre comme ça. En général, évidemment, on louait les services d'un passeur, qu'on payait cher d'ailleurs, parce que si le passeur était pris, eh bien, il risquait gros. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer pour Jean Marteig. Mais certains passeurs étaient des escrocs, tout simplement. Et puis, vous conduisez droit sur une patrouille de police, et puis vous abandonnez là à votre triste sort. Bon, toujours est-il que pour des raisons diverses, n'est-ce pas, c'est ce qui va se produire pour ce malheureux Jean Marteig et son camarade. Ils vont donc être arrêtés tous les deux, et il sera condamné aux galères. Il passera 13 ans en galère jusqu'en 1713, où il sera libéré avec 135 autres galériens, à la condition, chose cocasse, de quitter le royaume. C'est-à-dire que précisément, ce pourquoi il avait été condamné, c'est ce qu'on va lui demander de faire quand il va être, libéré. Jean Marteig, donc, a été condamné aux galères, et il a décrit minutieusement justement les bâtiments. Une grande partie de ce que l'on sait des galères vient des mémoires de Jean Marteig. Il décrit minutieusement les deux rangées de 26 bancs en forme d'arêtes de poisson, le coursier qui passait au milieu, et puis le nombre de galériens. Il a fait des recherches assez poussées dans ce domaine-là. Il y a donc eu 1450 galériens répertoriés pendant le règne de Louis XIV. Le taux de mortalité était de 44%. 71% mouraient dans les trois premières années, c'est-à-dire que si on passait trois ans aux galères, on avait une chance raisonnable de s'en sortir. 56% des galériens protestants finissaient par être libérés. 39% d'ailleurs, à cette époque-là bien sûr, hein, c'est-à-dire la fin quand même, hein, 39% étaient libérés au bout de trois ans de galères, en général pour bonne conduite. Et puis, il y avait la Société des Galères, dont nous n'avons pas la dernière fois, qui s'est forcée justement de leur venir en aide et de racheter les galériens. Les persécutions de 1699, qui ont eu lieu dans le Périgord, sous la direction, n'est-ce pas, du duc de la Gorse, qui était d'ailleurs un descendant de Huguenots, ont incité justement Jean Marteig à fuir. C'est ce qui l'a amené aussi, bien sûr, à se retrouver emprisonné tout d'abord à Charleroi, quand il a été arrêté, puis ensuite transféré à Paris. À Paris, en prison, il a été rejoint par deux gentilshommes originaires de Bergerac, eux aussi, qui avaient fait la même démarche et qui avaient été pris également. Et ces deux gentilshommes, qui n'avaient pas du tout envie de tâter des galères, eh bien, ont décidé d'abjurer. Et ce qu'ils ont fait. Et malgré cette abjuration, ils ont quand même été condamnés aux galères. Leur fiancée ont été condamnées à la réclusion perpétuelle et elles ont fini leurs jours dans un couvent quelconque. Le passeur qui les avait trahis, d'ailleurs, lui aussi a été condamné aux galères malgré sa trahison et lui aussi s'est retrouvé dans cette situation terrible. De là, Jean Marteig a été transféré à Lille où une chaîne est partie. Et la destination de la chaîne n'était pas le sud, mais Dunkerque, les galères qui se trouvaient stationnées à Dunkerque. Beaucoup de forçats protestants étaient séparés de leurs camarades parce qu'ils ne voulaient pas se laisser rançonner. Et Jean Marteig lui a réussi à avoir 3 mois de répit en se faisant porter malade. Puis de là, en janvier 1702, la chaîne est partie pour Dunkerque. Comme il était encore malade, il a eu le privilège d'être transporté en chariot. Et puis ensuite, il a été affecté sur la galère La Palme, qui était qu'avait Dunkerque pour port d'attache. Et puis ensuite, transféré sur la galère L'Heureuse, qui était une des 6 galères qui étaient donc basées à Dunkerque. Jean Marteil explique longuement comment se passait la vie sur les galères, et en particulier les affres qui saisissaient les galériens à la perspective d'un combat naval, ce qui était fréquent, notamment à Dunkerque, parce que là, on était directement en contact avec les Anglais. Et la guerre, n'est-ce pas, était permanente, endémique entre la France et l'Angleterre, tant et si bien que Jean Marteig a eu l'occasion de participer à plusieurs engagements contre les Anglais. Non seulement contre les Anglais, mais également contre les Hollandais, on n'était pas non plus très loin de la Hollande. Et c'est ainsi qu'il évoque un fameux engagement au cours duquel 150 hommes de sa galère ont été tués par le feu ennemi. Lui-même, en 1708, sera blessé dans un engagement contre une frégate anglaise qui les bombarde. Et finalement, seuls les Anglais épargneront uniquement la chiourme, les galériens, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un certain nombre de, comment on les appelle, les religionnaires au milieu d'eux. Et comme les Anglais sont protestants, évidemment, ils essayent d'épargner autant que faire se peut ces malheureux. Et c'est à cela, justement, que Jean Marteil doit d'être épargné, aussi du fait que d'autres galères viennent à la rescousse et les repêchent. Le 5 septembre, donc, il se retrouve avec 3 blessures et à l'hôpital des galères. Là, le chirurgien qui le traite le somme ou l'incite à abjurer, bien entendu, Jean Marteil refuse. Et une fois soigné, il est renvoyé sur son banc, mais il est dispensé de ramer quand même. C'est quand même un adoucissement. Donc, il va se trouver là pendant quelque temps. Et il va avoir l'occasion d'assister aussi à la fameuse bastonnade, en particulier qui va être appliquée à un huguenot du nom de Monsieur Sabatier, n'est-ce pas, qui avait refusé de lever son chapeau, son bonnet au moment de l'offrande de la messe, et qui va donc subir la fameuse bastonnade avec une corde trempée dans du goudron. D'ailleurs, il raconte comment c'est un Turc qui administre le supplice, et il y a un autre bonhomme derrière, le Turc, qui fouette le Turc au cas où le Turc ne taperait pas assez fort. Alors, voyez-vous, là on est sûr de la chose. Le 17 janvier, il va se trouver transféré dans les galères de Marseille. La raison, eh bien, c'est la crainte des protestants anglais. Les Anglais pressent Dunkerque et on craint une invasion anglaise à partir de Dunkerque, de sorte qu'on pense qu'il n'est pas bon d'avoir sur les galères qui sont stationnées à Dunkerque des gens de la religion réformée qui pourraient prendre fait et cause pour les Anglais en cas d'invasion, même si, bien sûr, enchaînés à leur banc, on voit très mal ce que ces malheureux galériens pourraient faire. Mais enfin, bon, toujours est-il que Jean Marteil va donc être transféré à Marseille. Il est malade, ce qui fait qu'il va être à nouveau transféré en chariot au Havre, où il va d'ailleurs tenter une évasion qui va rater. Puis ensuite, il est transporté à Paris pour participer à la chaîne qui va rejoindre Marseille. La chaîne part après un mois, c'est-à-dire le 17 décembre, et elle comprend 400 hommes. Et là, Jean Martel explique par le menu les souffrances justement de la chaîne, montrant que finalement, pire encore que le fait d'être de ramer aux galères, eh bien, le supplice de la chaîne était le pire. D'ailleurs, le taux de mortalité était effrayant, n'est-ce pas ? Tous ceux qui n'avaient pas une constitution physique robuste, eh bien, en général, mouraient simplement dans le voyage qui les emmenait jusqu'à Marseille. Il décrit la galère. Les différentes manœuvres, la vie de la chourme en été, puis en hiver. Il explique comment les années 1694 à 1700 avaient été les plus dures pour les galériens protestants, du fait que les Anglais ne voulaient pas intervenir dans les affaires intérieures de la France et que les malheureux galériens n'avaient rien à attendre donc de personne. Ils tenteront malgré tout de libérer quelques galériens. Et puis, finalement, c'est lors de la paix d'Utrecht, le 11 avril 1713, que les conditions de vie des galériens vont quelque peu s'améliorer. La liberté de culte n'est pas rétablie sur les galères, mais ils sont dispensés de la messe. Et finalement, ils pensent que là, les choses vont vraiment évoluer vers la libération. Mais à la paix d'Utrecht signée, eh bien, c'est terminé. Les galériens sont une fois de plus oubliés. Et en 1750, au milieu du siècle, seulement les derniers 45 galériens seront enfin libérés. Donc c'est vraiment quelque chose de considérable. Lui-même, Jean Martel, va être libéré en 1713, nous l'avons dit, et il se retire à Utrecht. Il fait partie d'un lot de 136 protestants qui sont libérés, à condition de sortir du royaume, ce dont ils n'ont pas les moyens, puisqu'ils n'ont pas d'argent, bien sûr. Et c'est pourquoi, avec l'aide de missionnaires, il part pour l'Italie et s'embarque à destination d'abord de Nice, qui appartient à l'Italie. Malheureusement, les vents sont contraires et le 17 juin, il revient sur la France, il n'a pas le droit de débarquer, sinon, bien entendu, il est à nouveau arrêté. Il finit par débarquer à Villefranche, dans le comté de Nice, ce qui est hors de France, et de là, eh bien, il part pour Genève avec 36 de ses camarades, puis de là, Turin, Genève, Berne, Francfort, Cologne, Dordrecht, Rotterdam et Amsterdam, et puis Utrecht, où il va donc s'installer définitivement. Voilà, si vous voulez très brièvement exposer l'itinéraire de cet homme particulièrement remarquable qui était Jean Martel. Bien, nous laissons de côté les galères et nous allons maintenant entamer un nouveau chapitre, la guerre des Cévennes. La guerre des Cévennes de 1702 à 1704. La guerre des Cévennes est un phénomène unique dans l'histoire. C'est un véritable miracle, le miracle du désespoir, la résistance de la foi sous la direction de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas question ici, évidemment, de déclarer que les Camisards sont sans reproche. Il est évident que dans le feu de l'action, les Camisards se sont conduits parfois d'une manière cruelle, sans faire de détails, etc. Bon, il est certain aussi que sur le plan prophétique, il y a eu des déraillements, notamment à la fin. Mais il est aussi absolument indiscutable que cette guerre des Camisards a vu une des manifestations authentiques, indiscutables et certaines de l'Esprit de Dieu. C'est une page de la Bible, c'est une page de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament même, si on veut, qui n'est pas sans rappeler certaines épopées de l'histoire d'Israël, telles que la conquête du pays de Canaan sous Josué, ou bien, si on veut sortir de l'époque biblique proprement dite, de l'épopée des Maccabées. D'ailleurs, les Camisards eux-mêmes feront allusion et feront référence à ces deux événements, n'est-ce pas, comme étant des choses qu'ils avaient l'intention de revivre. La révolte des Camisards ne peut pas se comprendre sans que l'on évoque le phénomène du prophétisme cévenol. Prophétisme cévenol qui avait commencé bien avant la révolte proprement dite, à la fin du siècle précédent, nous en avons parlé, et notamment à partir d'enfants. La première prophétesse qui se soit manifestée, du moins qui ait fait quelques bruits, ça se nommait Isabeau Vincent, c'était une jeune fille de 15 ans, qui prophétisait dans son sommeil. et qui, à partir de cet incident, le phénomène prophétique s'est répandu, notamment sur les enfants, des enfants qui ne parlaient pas le français, qui parlaient le patois. Quand ils prophétisaient dans un français parfait. On cite même des cas d'enfants qui, dès leur plus jeune âge, commençaient à prophétiser. Des enfants qui savaient à peine parler, n'est-ce pas, qui prophétisaient dans un français parfait des choses qui, évidemment, vu leur jeune âge, les dépassaient totalement, qui manifestement étaient surnaturels. On a même constaté que ce phénomène prophétique touchait des enfants catholiques. Les enfants catholiques aussi ont été touchés par le prophétisme. Des paysans illettrés, eux aussi prophétisaient, et là, le phénomène s'est répandu dans le Vivarais, dans l'Ardèche et en particulier dans les Cévennes. C'est ce phénomène prophétique qui a amené, en fin de compte, la deuxième génération qui a suivi la révocation de l'édit de Nantes à la révolte. Ces gens-là se sont appelés ou ont été appelés camisards. L'origine de ce mot n'est pas absolument élucidée. La camisarde était peut-être une blouse de paysan que ces gens-là portaient, n'est-ce pas, et dans laquelle ils combattaient. Ou bien aussi la camisarde pouvait être une attaque de nuit dans laquelle ces gens-là étaient passés maîtres. Ou bien alors, il s'agissait de sentiers à eux seuls connus, c'est pas de sentiers escarpés, qu'on appelait dans le patois local Macami, et qui aurait donné donc aussi le nom à camisard. En conclusion, l'étymologie du mot camisard n'est pas très élucidée, peu importe. À l'époque qui nous intéresse, avant la révocation des l'édit de Nantes, un quart du Languedoc était protestant. C'était donc un des endroits de France où la concentration des protestants était la plus importante et où les protestants avaient l'impression d'être en force. En fait, ils ne l'étaient pas. Mais la concentration de villages entiers ou même parfois de quartiers entiers dans des villes à majorité protestante faisait qu'ils se sentaient en force. La révolte des camisards, on peut dire qu'elle a sauvé le protestantisme français. S'il y a aujourd'hui des protestants en France, on peut dire que c'est grâce à la révolte des camisards. La guerre a intéressé plusieurs départements français, la Lozère, le Gard, l'Ardèche et l'Hérault. Dès le début du phénomène prophétique, bien entendu, les autorités catholiques et les autorités tout court, d'ailleurs, s'émeuvent. Et l'intendant Baville, qui est l'intendant du Languedoc, va s'efforcer de mettre fin à ce phénomène prophétique dans lequel il a subodoré un danger important pour le protestantisme. Et la technique est simple, n'est-ce pas ? Là où il y a des enfants qui prophétisent, on détruit la maison. Et en même temps, si possible, on enlève les enfants pour les enlever dans des couvents. Ainsi, il y aura des grandes razzias d'enfants, ce qui va exaspérer la population, bien sûr, et l'inciter à la révolte. Le prophétisme n'est pourtant pas stoppé. Il ne fait que se développer. Et il y a de plus en plus de réunions clandestines où on se rassemble, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de pasteurs, bien entendu, ils ont tous fui. Il n'y a pas encore de prédicants. Mais par contre, il y a des prophètes. Il y a des phénomènes charismatiques qui se produisent, parler en langue et choses semblables. Et l'on se rassemble tout simplement pour prophétiser, ce qu'on appelle prophétiser. Prophétiser, c'est-à-dire parler en langue. Et là, pendant des heures et des heures, dans les forêts, dans les grottes, dans des endroits escarpés, ce qu'on appellera le désert, n'est-ce pas ? Eh bien, on se rassemble pour recevoir la visitation du Saint-Esprit. Parfois, évidemment, on est surpris par les dragons, et c'est ainsi que le 19 février 1689, 800 prophètes et prophétesses, c'est-à-dire ce qu'on appelait des prophètes et prophétesses, tout simplement des gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, disons. D'ailleurs, on trouve ça dans le livre des Actes aussi. Pierre, le jour de la Pentecôte, quand il explique le phénomène du parler en langue en disant « C'est ce qui a été écrit par le prophète, vos fils et vos filles prophétiseront. » Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, parler en langue, c'est prophétiser. Et donc, ce jour-là, 19 février 1689, 800 prophètes et prophétesses sont surpris par les dragons et sont massacrés. Euh, Une autre fois, il y a, dans des conditions semblables, une intervention miraculeuse du Saint-Esprit. L'intendant Folleville envoie des messagers pour arrêter une troupe de prophètes, mais ceux qui sont envoyés, comme vous savez dans l'histoire de Saül qui veut faire saisir Samuel, eh bien ces gens-là ne reviennent pas, parce qu'ils sont saisis aussi par l'esprit de prophétie et se mettent à prophétiser en même temps que tous ceux qui sont là. Et ainsi, la tentative d'arrestation des prophètes échoue. Plus tard, on va dénombrer donc plusieurs centaines, 8000 prophètes, rien moins de 8000 prophètes, et des phénomènes épisodiques de prophétisme vont se produire dans toute la région du Languedoc, en fin de compte. Bien entendu, il y a une réaction très forte du clergé local, et parmi les plus acharnés contre les protestants ou contre les prophètes, il n'est pas question de protestants à cette époque-là, il n'y a officiellement plus de protestants dans le royaume, il n'y a que des nouveaux convertis. Eh bien, un des plus farouches adversaires des prophètes est le sinistre abbé Duchella, qui a transformé sa maison du pont de Montvert en une véritable maison de une prison avec salle de torture, etc. Il torture lui-même les prisonniers, il viole les enfants qui sont arrêtés, il oblige les femmes des détenus à se donner à lui en échange d'une libération hypothétique de leur mari. Enfin, c'est vraiment un épouvantable bonhomme qui fait l'unanimité des nouveaux convertis contre lui. Et ce sont les exactions de l'abbé Duchella qui vont donner le signal de la révolte. On distingue trois époques dans la révolte des Camisards. Une première époque est la révolte spontanée, des représailles. Des représailles en face des excès, n'est-ce pas, du parti catholique. C'est le ras-le-bol, on n'en peut plus, et alors on intervient. Il y a deux chefs qui vont intervenir à cette période-là. Gédéon Laporte et Pierre Séguier, dit Esprit, n'est-ce pas, qui va prendre le nom d'Esprit Séguier parce qu'il est un des principaux prophètes. La deuxième époque, ça va être la révolte, l'organisation. Cette révolte spontanée va maintenant se structurer avec des chefs qui vont l'organiser d'une manière conséquente, et notamment ce sera le cas de Roland. C'est pas son vrai nom, n'est-ce pas? Il a pris ce nom-là, qui est un nom de guerre, à partir de la vision de Daniel, qui voit la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, n'est-ce pas? Et qui vient frapper les orteils de la grande statue du roi Nebuchadnezzar. Et Roland, ça vient de roulant, n'est-ce pas? La pierre qui roule et qui va donc abattre la grande statue. Et puis, une troisième époque, qui va être alors l'époque de gloire, on peut dire, de la révolte Camisard, dont le principal chef sera Cavalier. Nous aurons l'occasion d'y revenir. À cette période-là, il y aura 3000 insurgés contre 10 000 dragons du roi. En 1633, les catholiques tenteront d'affamer les Cévennes en s'emparant de la plaine. En vain, n'est-ce pas? Et finalement, il y aura une répression d'une férocité totale, tellement que le pape donnera son indulgence plénière aux massacreurs. C'est-à-dire que les catholiques ont le droit de massacrer en toute impunité. Ils sont assurés que ce n'est pas un péché. Donc maintenant, revoyons, si vous voulez, le film des événements après avoir dressé cette grande fresque. En été 1700, le prophétisme qui a commencé en Ardèche, atteint les Cévennes. Et le 4 mai 1701, un berger inspiré qui se nomme Jacques Bouton est arrêté. Il est condamné, bien entendu, et pour tenter de le délivrer, la foule brûle l'église dans laquelle il est emprisonné. Elle parvient à délivrer Bouton, malheureusement. Le malheureux est repris et il est roué vif. Alors le supplice de la roue, pour la petite histoire, c'est un supplice particulièrement cruel. Ça consiste à attacher le condamné sur une espèce de croix de Saint-André à plat et de lui rompre les membres avec une barre de fer, puis de le laisser mourir, agoniser tranquillement sur une roue de charrette. En général, pour quand on a bien joué du spectacle, qu'on en a un peu assez, le bourreau achève le malheureux d'un coup de barre de fer dans le cœur. Mais quelquefois, on attend tout simplement qu'il meure ainsi, n'est-ce pas, d'atroces souffrances comme on peut l'imaginer. Alors, après le supplice de ce malheureux berger, on traque enfants et adolescents. Malgré tout, les assemblées se poursuivent de plus belle. Elles durent parfois 10 à 12 heures d'affilée, n'est-ce pas, parfois même davantage. Le 24 janvier 1702, une prophétesse est pendue au pont de Montvert. Elle se nomme la Buchon. Et sur la potence, juste avant d'être pendue, elle prophétise. Elle prophétise que son juge, l'abbé Duchella, finira sa vie au même endroit. Et c'est effectivement ce qui arrivera. Duchella arrache les enfants à leurs parents. Lui-même confisque leurs biens à son profit, si bien qu'il vit dans une grande opulence. Il torture, nous l'avons dit tout à l'heure. Et devient bientôt la terreur de tous les nouveaux convertis de la région. C'est alors que les prophètes commencent à annoncer des grandes calamités. Ils annoncent que des églises seront brûlées, que le pays sera à feu et à sang, et que le Seigneur, disent-ils, va faire de grandes choses. Maintenant, ce fameux réveil prophétique, qui touche-t-il ? C'est très intéressant de le noter. Il touche les enfants de ceux qui ont abjuré. Et comme je l'ai souvent dit, mais je crois que je suis un des rares à le dire, j'ai rarement vu ça, je n'ai jamais vu ça dans aucun livre d'histoire, n'est-ce pas ? Le phénomène des Cévennes est un phénomène qui s'apparente au phénomène Maran du côté des Juifs. Nous avons exactement la même démarche. L'édit de Nantes n'est pas sans rappeler, la révocation de l'édit de Nantes n'est pas sans rappeler l'édit d'expulsion d'Espagne des rois catholiques de 1492 et l'obligation, n'est-ce pas, pour les protestants de se convertir de force. Alors on appelait les maranes les nuevos cristianos, les nouveaux chrétiens. On appelle les protestants, n'est-ce pas, convertis de force après la révocation de l'édit de Nantes, les nouveaux convertis finalement, ce sont les mêmes termes. Alors ces gens-là sont obligés d'aller de force aux offices catholiques. Bien sûr, le curé du coin pointe. Et on a intérêt à se montrer à l'église, on a intérêt à envoyer ses enfants au catéchisme, on a intérêt à les baptiser, etc. Sinon, et surtout, nous l'avons vu, de faire venir le prêtre à l'heure de la mort pour l'extrême onction. Ça, alors là, c'est la chose importante par-dessus tout. Et bon, les protestants sont obligés, il n'y a pas de problème, c'est ça, ou il n'y a pas le choix. Bon. Alors, comme les maranes en Espagne ou au Portugal, ils vont jouer un double jeu. On envoie certes les enfants au catéchisme, mais une fois que les enfants sont rentrés du catéchisme, on les fait raconter soigneusement ce qu'on leur a enseigné là-bas, et on démolit l'enseignement. Bible en main, on dit, ben voilà, ce que la Bible dit, etc., ce qu'on vous a enseigné est faux, bon. Et lorsqu'il en est ainsi, après être rentré de la messe le dimanche, on ferme soigneusement les portes de la maison, on met un des enfants à veiller pour voir si la police n'arrive pas, on sort la Bible de sa cachette, et puis on fait un culte de famille. Après ça, on s'enhardit. Et ce sont les fameuses assemblées du désert, secrètes, n'est-ce pas ? Pourquoi le désert ? Bon, parce qu'on se rend dans des endroits déserts d'abord, c'est vrai. Mais aussi à cause des réminiscences bibliques. Et notamment le fameux texte d'Osée, « C'est pourquoi, dit le Seigneur, je vais la séduire, l'attirer au désert, et là je parlerai à son cœur, puis je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'Achor se transformera en une porte d'espérance. » Alors, on va au désert, et aussi à cause de la femme d'Apocalypse 12, n'est-ce pas, qui est protégée par le Seigneur au désert un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, c'est tout ça qui est en filigrane quand on parle des assemblées du désert. Et là, bien sûr, on le fait à ses risques et périls, ça va de soi, mais en même temps, c'est une forme de résistance, c'est une forme de maranmise. Officiellement, on est de bons catholiques. Dans la réalité, bien entendu, il en va tout autrement. Bon, les autorités catholiques ne sont pas entièrement dupes, ça va de soi. Et alors elles surveillent attentivement ces fameux nouveaux convertis dont on n'est absolument pas sûr. Seulement, ces gens-là qui vivent le double jeu, ils ont quand même mauvaise conscience. Et puis, ils s'en accommodent. Ils s'en accommodent comme on fait les maranes. C'est le même phénomène, exactement. Et puis, il y a leurs enfants, la génération suivante. Et la génération suivante, eh bien, voit leurs parents qui ont abjuré, qui ensuite jouent un double jeu, qui eux-mêmes sont incités par leurs enfants à vivre dans cette espèce de tricherie permanente. Eh bien, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils ne supportent plus. Et c'est eux qui vont qui vont être touchés par le réveil prophétique et qui vont lever l'étendard de la révolte. Au nom de l'Évangile, parce que finalement, ils ne supportent plus le double jeu. Ils ne supportent plus d'avoir l'apparence de catholique et puis finalement de ne pas l'être. Alors, ils veulent se montrer ce qu'ils sont véritablement au grand jour. Et c'est là la raison essentielle de la révolte. C'est un véritable traumatisme pour ces jeunes qui ont vu leurs parents obligés de mentir constamment. Maintenant, ceux qui vont être à la tête de la révolte ne sont pas, des gens qui sont en bas d'échelle sociale. Ce ne sont pas des aristocrates, ce ne sont pas des gentilshommes. Mais ce sont en général des petits propriétaires ou des artisans. Par exemple, Abraham Mazel, qui sera un des grands leaders de la révolte, était peigneur de laine. Élie Marion était clerc de notaire, etc. Et ces gens-là vont d'abord passer par une période d'inspiration prophétique, où Dieu leur révèle un certain nombre de choses. Par exemple, leur révèle les secrets des cœurs. Il est tout à fait intéressant de noter que les ennemis des camisards n'ont jamais nié la réalité des miracles. Ils ont simplement attribué ces miracles à Satan, exactement comme on le faisait pour Jésus. Mais les miracles eux-mêmes n'ont jamais été niés. Bien sûr, il y a eu parmi eux des faux prophètes, ça c'est indiscutable. Mais il y a eu aussi des vrais prophètes. Et il est certain que Dieu a parlé. Lorsque les pasteurs ont été expulsés en 1685, eh bien, certains avaient dit une chose tout à fait étonnante. Ils avaient dit « En notre absence, le Saint-Esprit demeurera avec vous et Jésus sera votre pasteur. Il vous parlera par la bouche de simples femmes et par la bouche de petits-enfants. » Ça, c'était une parole prophétique qu'avaient eu les derniers pasteurs qui avaient fui donc au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Un autre élément qui nous montre que nous avions affaire à une authentique visitation du Saint-Esprit, c'est que le message des prophètes conduisait à la sanctification. Et ça ne trompe pas. Quand le message prophétique amène les gens à se rapprocher de Dieu, à se sanctifier, alors il est évident que c'est véritablement l'Esprit de Dieu qui parle. Deuxième chose, ce qui était le modèle des prophètes de Sévenol, c'était quand même les prophètes de l'Ancien Testament. Ils se considéraient un petit peu comme les instruments du jugement de Dieu. Et eux vivaient de miracles quotidiens. Le miracle était une chose normale pour eux. Et le prophétisme a été à l'origine de leur résistance. C'est parce qu'ils comptaient entièrement sur Dieu, sur l'Esprit de Dieu, qu'ils ont eu l'audace de braver les armées du plus puissant monarque d'Europe. Le Saint-Esprit, effectivement, les a conduits. C'est indiscutable. Ils n'auraient pas pu tenir aussi longtemps qu'ils l'ont fait s'il n'y avait pas eu l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit les conduisait dans les opérations militaires. Désigner les chefs, les endroits où il fallait placer des embuscades, comment cela devait être organisé, etc. On cite des miracles extraordinaires, comme par exemple un qui a touché le grand prophète Clarisse. Clarisse qui, un jour, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour montrer que ce qu'il disait était véritablement inspiré par l'Esprit de Dieu, n'a pas hésité à marcher dans le feu. Un grand feu avait été allumé et il est entré au milieu du feu, il est resté un certain temps au milieu du feu, il est sorti sans avoir un seul poil de roussi. Ça a été attesté par tous les témoins, n'est-ce pas ? Un de ces grands miracles, comme Dieu en fait exceptionnellement, mais comme il en fait de temps en temps. Après la révocation des dits de Nantes, Les derniers pasteurs qui avaient tenté de rentrer clandestinement avaient été exécutés, tels Brousson ou Vivens, ou encore envoyés aux galères. Et c'est pourquoi, justement, les prophètes avaient pris la relève. C'est à Dieulfi que Desserre avait été le premier aussi à recevoir des inspirations du Saint-Esprit, dans laquelle Dieu lui avait révélé que Rome était la grande prostituée de l'Apocalypse. Bon, ça, je lui laisse évidemment la responsabilité de son affirmation. Je ne suis pas absolument que ce soit le Saint-Esprit qui lui ait dit. En tout cas, à cette époque-là, ça devait être vrai. Des enfants de 14 ans exhortaient le peuple à la repentance, sous la direction du Saint-Esprit. Et on cite même, n'est-ce pas, un enfant de 15 mois qui a été emprisonné avec sa mère pour cause de prophétisme. En tout cas, il a été emprisonné. A-t-il prophétisé réellement ou pas? En tout cas, n'est-ce pas, l'enfant, on ne pouvait pas le séparer de sa mère, alors la mère a été arrêtée avec. En tout cas, 60 enfants de 3 à 13 ans prophétisaient. Selon ce qui est écrit dans l'Écriture, vos fils et vos filles prophétiseront. Et Dieu, par leur bouche, avertissait des grands dangers qui venaient. Parfois, Dieu aussi révélait des traîtres qui étaient au milieu d'eux. Par exemple, Mazel avait été averti qu'un traître se préparait à le livrer. Il l'avait démasqué au cours d'une réunion publique d'un culte. Mazel était venu vers lui et lui dit « Voilà, tu es en train de trahir, tu vas me trahir. Le Seigneur m'a révélé que tu vas me trahir. » Et l'autre est tombé à genoux en demandant pardon, etc., disant que c'était vrai. Alors, que faire de cet homme-là dans une période de guerre, n'est-ce pas? Finalement, Mazel a prié et Dieu, le Saint-Esprit, a dit de lui faire grâce, quoi, que sa repentance était sincère, qu'on pouvait lui faire confiance. Et effectivement, si en a-t-il été, il n'y a pas eu de traîtrise, il n'y a pas eu de trahison. Même chose aussi au moment où Abraham Mazel va être arrêté. Dieu lui révèle qu'il s'en sortira, il s'en échappera, et effectivement, Abraham Mazel accomplira cet extraordinaire exploit de s'enfuir de la tour de Constance. C'est une des rares évasions qui a eu lieu depuis la tour de Constance. Abraham Mazel a été, on pourrait dire, celui qui a été aux origines de la révolte, et il évoque en particulier comment le Seigneur l'a incité à prendre les armes. Un jour qu'il était dans les champs en train de méditer, de prier, il a eu une vision. Et le Seigneur lui a montré des grands taureaux noirs, ou des bœufs noirs, je ne me souviens plus exactement, qui étaient en train de fouler, de saccager. Le Seigneur lui a dit, eh bien, ce sont en quelque sorte les forces du roi, ce sont les forces catholiques. Et prépare-toi, tiens-toi prêt, mon enfant, n'est-ce pas? Les prophéties des Sévenols commençaient toujours par cette parole, je te le dis, mon enfant. Je te le dis, mon enfant. Alors, je te dis, mon enfant, tiens-toi prêt dans quelque temps. Eh bien, tu devras, toi et les tiens, prendre les armes pour chasser, en quelque sorte, ces bœufs qui sont en train de saccager mon pâturage, qui sont en train d'empêcher mes brebis de se développer. Et lorsque ces gens-là avaient reçu des inspirations du Saint-Esprit, qu'ils avaient à prendre les armes, ils avaient une assurance inébranlable. Là, ils avaient l'habitude de chanter un certain nombre de psaumes, notamment le psaume 68. Et vous savez que Dieu se montre seulement, on verra dans un instant, abandonner la place, le camp des ennemis épars, effrayé de toutes parts, fuira devant sa face. Et quand les camisards entonnaient ce chant avec toute la puissance dont ils étaient capables, il paraît que les troupes catholiques en face, leur sang se glaçait dans leurs veines. C'était quelque chose d'impressionnant. Et quand ils avaient ces inspirations-là, rien ne pouvait les arrêter. Ils étaient certains de la victoire. Et la victoire était souvent d'ailleurs au rendez-vous. Ils luttaient contre ce qu'ils considéraient la bête de l'Apocalypse, en tout cas de leur temps, et avaient l'impression de vivre aussi un combat eschatologique, en relation avec le retour de Jésus. Ils annonçaient le jugement universel. Et quand ils se fiaient dans leur propre sagesse, ils échouaient. La plupart des échecs que les camisards ont essuyés, c'est quand, justement, ils n'ont pas écouté les inspirations du Saint-Esprit. Parfois, justement, le Saint-Esprit leur donnait des inspirations qui étaient en tout point contraires à la sagesse humaine. Parfois, ils n'avaient pas de direction non plus. Le Saint-Esprit ne disait rien. Le Saint-Esprit prédisait aussi qu'ils mourraient. Et, bon, dans un culte, par exemple, le Saint-Esprit parlait à un tel, s'adressait à un tel, je te dis mon enfant, prépare-toi, tu vas me rejoindre dans un combat. Bon, c'était pour celui qui aurait été l'objet d'une telle prophétie, bien, il se préparait tranquillement, quoi. La mort était relativisée, il n'avait pas peur de la mort, hein. C'est sûr que là, il partait comme ça au combat, et en général, c'est vrai, celui qui avait été comme ça désigné pour la mort, si j'ose dire, eh bien, n'en revenait pas. On cite aussi un épisode qui restait célèbre dans les annales où une troupe de camisards s'était perdue dans la forêt, dans la montagne, une nuit. Et ils avaient prié, Seigneur, permets que nous retrouvions notre route. Et ils avaient vu une grande lumière qu'ils avaient conduite, comme l'étoile avait conduit les mages, jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur route. D'autres choses étonnantes aussi, les armes explosaient dans la main des catholiques. Elles étaient inefficaces. Quant à ceux qui étaient condamnés à mort, dans les supplices les plus horribles du type de ceux que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, en général, ils entraient dans la gloire en chantant. C'était quelque chose qui impressionnait terriblement leurs adversaires, quoi. Ils étaient aussi très impressionnés, vous savez, par la coutume de l'interdit dont il est question dans la Bible, par exemple à Jéricho, à Caen, etc. Et ils s'interdisaient absolument à toucher au butin qu'ils avaient fait, n'est-ce pas ? Ils prenaient simplement les vitraux ou les choses semblables pour fondre le plomb, pour en faire des balles. Mais ils ne touchaient absolument pas aux biens matériels, notamment tout ce qui était, ce qui avait trait à l'idolâtrie, les statues, les choses comme ça. Tout ça a été détruit, hein, ça, ils ne récupéraient rien du tout. Et puis... on cite même des cas, n'est-ce pas, où ils ont entendu, et plusieurs l'attestent, n'est-ce pas, même des catholiques ont entendu des anges chanter des psaumes. À un certain moment, des chants angéliques, et manifestement, c'était des anges, ça ne pouvait être que des anges, n'est-ce pas, qui chantaient les psaumes. Bien, alors donc, là, nous sommes dans une grande, grande période d'un grand, grand réveil, manifestement. Quelque chose où l'Esprit de Dieu était véritablement à l'œuvre. Alors maintenant, je ne veux pas dire que tout était parfait dans ce qui est... Bon, bien sûr, on sait bien que dans tout réveil, il y a toujours l'action de Satan, il y a l'action des hommes, et le réveil camisard n'a pas fait exception à la règle, n'est-ce pas ? Mais encore une fois, il est certain qu'il y a eu des choses authentiques et indiscutables, encore une fois, qui n'ont pas été contestées par les adversaires du réveil. Les miracles ont été reconnus et attestés. Faisons, si vous voulez, d'abord une chronologie sommaire de cette révolte des camisards avant d'entrer dans son étude proprement dite. La révolte éclate le 24 juillet 1702 par le meurtre de l'abbé Duchella au pont de Montvert, et de là, elle se répand dans toutes les Cévennes. Le 28 juillet de la même année, les camisards essuient une première défaite pour n'avoir pas écouté les directions de l'esprit, et notamment Pierre Séguier, dit esprit, est capturé, condamné à mort et brûlé vif. Par la suite, à partir d'octobre 1703, les Cévennes sont dévastées en représailles par les troupes du roi. C'est alors qu'intervient Cavalier, et à la fin de 1703, une série de victoires renverse la situation au profit des camisards sous la direction de Cavalier. En mars 1704, un régiment de la marine royale est mis en déroute. Et puis, finalement, en mai de la même année, Cavalier va accepter de traiter avec l'ennemi et de déposer les armes. Il est désavoué par les autres chefs camisards, notamment par Roland, qui trouve une mort héroïque le 12 août de la même année. En octobre, les derniers camisards se rendent, et en 1606, Antoine Court convoque le premier synode du désert. L'épopée des camisards est terminée, commence la période des pasteurs du désert. Voilà en gros, si vous voulez, comment on peut définir une chronologie sommaire de cette révolte des camisards. Voyons donc, si vous voulez, ce qui concerne d'abord le début de la révolte. Le début de la révolte a pour auteur, nous disions il y a un instant, Abraham Mazel, peigneur de laine de son état, le 9 octobre 1601, alors qu'il est âgé de 22 ans, est baptisé dans le Saint-Esprit, non loin de Saint-Jean-du-Gard, tout seul dans une grotte. Et le Seigneur, au moment où il est baptisé dans le Saint-Esprit, lui révèle qu'il a pour mission d'aller réveiller son peuple assoupi. Et à partir de ce moment-là, la voix de Dieu se fait entendre un grand nombre d'inspirés qui se mettent à proclamer dans les villes et les campagnes d'avoir à se repentir. Et voilà le message en gros des prophètes tel que Abraham Mazel le rapporte dans ses mémoires. Repentez-vous, n'allez plus à la messe romaine, renoncez à l'idolâtrie. L'idolâtrie étant bien entendu toutes les pratiques romaines. Abraham Mazel reçoit la révélation aussi que des hommes vont se lever et vont procéder à la destruction de l'empire du diable, de la bête et du faux prophète, comprenez donc de l'Église catholique. D'autres prophètes annoncent de grandes calamités vont s'abattre dans le pays, les églises seront brûlées, rendues désertes, il y aura de grandes désolations par le fer et par le feu, mais le peuple va venir à la repentance. Donc ça, c'est une espèce d'agitation qui va croître, qui va naître petit à petit à la suite justement du courant prophétique d'une part et des exactions catholiques d'autre part. Et puis finalement, ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est l'affaire du pont de Montvert du 22 juillet 1602. Quelques nouveaux convertis ont été arrêtés par l'abbé Duchella, c'est courant. Rien de bien nouveau. Et comme d'habitude, la parenté de ces malheureux implore la clémence de l'abbé, en vain en général, et cette fois-ci aussi, cela ne fait pas exception à la règle. En particulier, il y a un homme du nom de Massep qui a été arrêté. Et la famille de Massep fait une démarche auprès de l'abbé Duchella, pour le libérer. Duchella les reçoit avec dédain et hauteur et annonce que Massep sera exécuté. La parenté de Massep se rend donc vers Mazel en particulier pour lui annoncer que la requête de grâce de Massep a été refusée. C'est alors que les deux leaders du mouvement prophétique, qui sont Mazel et Kouderk, n'est-ce pas, avec Séguier d'ailleurs, n'est-ce pas, décide de se rassembler pour demander au Seigneur ce qu'il convient de faire en pareil cas. On trouve que maintenant, ça commence à dépasser les limites. Et on convoque une réunion de prière sur le mont Égoual, qui est une espèce de montagne sacrée, qui est une espèce de mont Sinaï, en quelque sorte, dans la saga des Sévenols, n'est-ce pas, l'Égoual. Et là, donc, les prophètes se rendent au sommet du mont Égoual. Et pendant la prière, soudain le Saint-Esprit descend et Mazel reçoit l'ordre du Saint-Esprit d'aller libérer les prisonniers avec des promesses que Dieu sera avec eux. C'est sur le mont Bougès. Hein, c'est une autre montagne sacrée. Et c'est pourquoi, le 24 juillet, il y a un nouveau rassemblement sur le même mont, 50 hommes, mais cette fois-ci non plus pour la prière, mais pour l'action. Ils sont venus avec des faux, avec ceux qui ont des fusils, ils ne sont pas nombreux à en avoir, mais ils les ont pris. Et il y a 20 fusils, en fin de compte, et pistolets, et le reste sont armés de sabres, de haches, de halbardes, et même de bâtons, éventuellement de faux, bien sûr, et de bâtons. C'est alors que Pierre Séguier, si vous voulez, prend la direction de la troupe. Il fait ranger les hommes par rang de quatre après une inspiration du Seigneur qui leur a dit « Mettez-vous en rang par quatre ». Puis il chante le psaume 51 et il se dirige vers le pont de Montvert. Le but n'est pas de provoquer une émeute. Le but est tout simplement de faire relaxer les prisonniers. Alors on arrive devant la maison de l'abbé, on interpelle l'abbé poliment, en disant de la part de l'Éternel, l'Éternel nous envoie, l'Esprit te dit, libère ces hommes qui sont chez toi. Bon, il est évident que Duchella, qui est à sa fenêtre, rigole un bon coup. Et non seulement rigole un bon coup, ce qu'ils ont dit exactement, c'est ceci. De la part de Dieu, nous sommes venus réclamer les prisonniers. Alors, Duchella rigole, il a une garde avec lui, il se passe à leur fenêtre, et puis il tire dans le tas. Ils ont des fusils avec eux, ils tirent dans le tas. Trois camisards sont tués à cause de leur péché, dit Mazel. Alors là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Les camisards, devant cette, comment dirais-je, cette traîtrise, alors que sont intervenus poliment, eh bien, maintenant attaque. Il commence par mettre le feu à l'escalier de la maison, et puis le feu se propage immédiatement dans la maison. Ils font irruption dans la maison, et ils se rendent tout de suite dans les cachots, libèrent les prisonniers, c'est la première chose qu'ils font. Puis ensuite, ils s'occupent de l'abbé, lequel, se voyant pris comme un rat, essaye de sauter par la fenêtre, il se casse la jambe en sautant. Il est récupéré par les camisards qui l'entourent, et là, il comprend que ses actions sont au plus bas, bien entendu. Et alors, il se lance dans un grand discours en disant « Messieurs, 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 vous savez bien que la parole de Dieu défend le meurtre. » Là, soudain, il se souvient que... Alors, on lui répond qu'il aurait peut-être fallu que lui, il y pense avant. Et alors, il fait les promesses que maintenant, il ne persécutera plus personne. Enfin, il promet tout ce qu'on veut, quoi. Bon, ben, les autres, quand même, ne sont pas nés de la dernière pluie. Et ils sont 50, enfin, moins les trois qui sont morts. L'abbé Chéla va tomber percé de 52 coups de poignard. Là, c'est vraiment le règlement de compte total. Le presbytère brûle complètement. Et de là... la troupe des camisards, n'est-ce pas, se rend dans les villages voisins, et pendant plusieurs jours, ça va être une épopée, n'est-ce pas, de représailles et de vengeance. Partout où il y a des presbytères et des églises, n'est-ce pas, où des curés se sont livrés à des exactions contre des nouveaux convertis, à l'exemple de l'abbé du Chéla, eh bien, il n'y a pas de quartier. Là, les abbés sont tués, sans autre forme de procès. Les églises sont brûlées, les presbytères sont détruits, etc., etc. C'est le cas, par exemple, de l'église de Frugères. Le 27, c'est le tour du curé de Saint-André de la Maze, qui d'ailleurs se réfugie dans son clocher avec ses armes, et qui s'enraye, les armes s'enrayent, il n'arrive pas à tirer sur les camisards, qui montent au haut du clocher, le précipite en bas de son clocher. Voilà quelle sera la triste fin du curé de Saint-André. De là, les camisards arrivent au château d'un château voisin, où un renégat, un contre-renégat, n'est-ce pas, qui était un ancien protestant, a fait cause commune avec les protestants. Il brûle le château. Tous les habitants du château sont tués. Mais Jacques Couder, qui est un des prophètes, un des leaders des camisards, est tué dans l'attaque. C'est le baron de Saint-Côme qui est assassiné, n'est-ce pas? Alors, là, évidemment, quand on apprend cette chose terrible, là, les catholiques commencent à paniquer. Et bien entendu, la maréchaussée locale va tenter de châtier les rebelles. Et le 13 août, le colonel de la maréchaussée locale rassemble ses forces et se met à la poursuite des camisards. Seulement, les camisards ont été avertis par le Saint-Esprit. Il dresse une embuscade à un endroit que le Saint-Esprit leur a désigné. Et là, eh bien, la troupe des gendarmes tombe dans cette embuscade et se fait tailler en pièces. En représailles à cette attaque, eh bien, les camisards continuent à brûler quelques églises. Bon, et d'un autre côté, les troupes royales aussi entreprennent des expéditions punitives contre les villages où il y a des protestants. Donc, on entre dans un cycle d'attaques, de représailles, de contre-représailles, de pillages, etc., etc. Et c'est alors que intervient le premier échec des camisards, lorsque Esprit Séguier décide de dresser une embuscade dans un certain endroit. Et Mazel, qui est avec lui, soudain une révélation lui dit « Ne reste pas là, le Saint-Esprit me révèle qu'il faut partir immédiatement, je ne sais pas pourquoi, mais il faut partir. » Et Esprit Séguier ne bouge pas, finalement. Mazel s'enfuit avec un certain nombre de gens, ils échapperont. Ceux qui sont restés avec Pierre Séguier tombent effectivement dans une contre-embuscade des troupes royales et ils sont pris. Esprit Séguier donc est arrêté, comme un des principaux chefs de la révolte, après que le roi ait répliqué, après avoir été averti de ce qui se passe en Languedoc, en créant une juridiction spéciale pour mater la révolte des Cévennes, qu'on appelle d'un nom qui en dit long tout de suite, n'est-ce pas, la Chambre Ardente. Séguier, donc, sur l'ordre de la fameuse Chambre Ardente, est condamné à mort. et les exécutions ont lieu le 11 et le 12 août. Esprit Séguier va mourir avec un courage extraordinaire en chantant le psaume 69. Avant son exécution, il est condamné à être brûlé vif. Le bourreau a ordre de lui couper le poing droit. Et donc on raconte qu'effectivement, le bourreau lui coupe, mais il reste encore un lambeau de chair, la main tient encore, et que Séguier lui-même arrache sa main avec ses dents, n'est-ce pas ? Il jette sa main dans le feu. Et puis il demande au bourreau, il dit « coupe l'autre ». Le bourreau embêté dit « ben moi j'ai reçu l'ordre de couper le droit, le gauche, je lui touche pas ». Bon, alors il est lié au poteau et le feu est mis et on l'entend jusqu'au dernier moment chanter. Comme s'il ne sentait pas la douleur, vraiment porté par l'Esprit de Dieu d'une manière tout à fait extraordinaire. Avant de mourir, avant d'être attaché au poteau, il se met à prophétiser. Et il annonce qu'au lieu où il va être exécuté, ce lieu sera emporté par les eaux. Effectivement, l'hiver suivant, une terrible inondation se produit et la place sur laquelle Séguier va être exécuté sera en effet submergée par les eaux. Des enfants sont enlevés, etc. Les représailles continuent d'une manière terrible. Et la mort de Séguier, évidemment, est un des premiers tournants dans la révolte des Cévennes, notamment en ce que les autorités royales se rendent compte qu'elles n'ont pas affaire simplement à une révolte sporadique, mais quelque chose de très profond. Et l'intendant du Languedoc, qui est Baville à cette époque-là, promet alors une amnistie à tous ceux qui se rendront. Et un certain nombre de camisards ont la faiblesse de croire aux promesses de l'intendant et se rendent. Ils sont pendus devant leur maison. Bon, évidemment, cette trahison n'est pas faite pour encourager les autres à se rendre. Et les survivants s'enfuient et reçoivent une nouvelle prophétie qui leur donne l'ordre de poursuivre la révolte. Mazel déclare à peu près ceci, « Mieux vaut mourir par l'épée que par les mains du bourreau ». Le chef qui remplace Séguier se nomme Gédéon Laporte. C'est un ancien militaire, maréchal des logis. On ne peut pas dire qu'il avait un grade particulièrement élevé, mais enfin, il avait quand même une petite formation militaire. Et alors, il reçoit le titre de commandant en chef du camp de l'Éternel. Le camp de l'Éternel étant évidemment l'ensemble des forces camisardes qui se montent à 30 hommes. Vous voyez, on va loin avec ça. Et ces 30 hommes, sous la direction donc de Gédéon Laporte, font le serment de mourir les armes à la main. De 30, le rang vont grossir et en octobre de la même année, ils sont environ 100. Le premier devoir de ces gens-là, c'est de s'armer, parce qu'on ne fait pas une révolte sans armes et des armes, on n'en a pas. Pour s'armer, on détrousse les morts, les cadavres, on pille les presbytères où en général les prêtres ont des armes, on les leur vole, etc. C'est comme ça qu'on s'arme au début. Et à la fin de l'année, a lieu un engagement important avec les forces royales qui a lieu à Sainte-Croix. L'engagement va mal tourner pour les camisards, qui manquent encore d'expérience militaire, et Gédéon Laporte va être tué, avec un certain nombre de ses compagnons. On lui coupe la tête après sa mort, et sa tête est portée en triomphe, et notamment exposée avec la tête de ses compagnons sur le pont d'Anduze. Elle restera là pendant plusieurs mois pour impressionner un peu la population. Effectivement, cette tête de Gédéon Laporte va impressionner un jeune garçon boulanger qui se nomme Cavalier et l'incitera à prendre la succession de Gédéon Laporte. Et Cavalier deviendra un des principaux chefs de la révolte, un des plus intelligents, un des plus redoutables pour les forces royales. En fait, le plan des ennemis a tourné à leur confusion, bien loin d'effrayer et d'impressionner les protestants. Le spectacle macabre de ces têtes exposées sur le pont d'Anduze va avoir pour effet de stimuler l'esprit de résistance, justement, des camisards. Alors, les objectifs des camisards se portent essentiellement sur les églises et les presbytères. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont les lieux où se concentrent les dragons en général. Et systématiquement, pour empêcher les concentrations ennemies, les camisards brûlent églises et presbytères. C'est pas simplement par esprit de, comment dirais-je, d'anticatholicisme primaire, mais aussi pour des raisons militaires et stratégiques. Alors voilà, si vous voulez, les premiers temps de la révolte et dans un deuxième temps, les prophètes eux-mêmes vont prendre les armes. Les prophètes vont devenir eux-mêmes les exécutants du jugement de Dieu. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire ce soir dans une première partie pour évoquer le début de cette révolte des Camisards. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ?